Bonjour à tous et à tous. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 pour notre 8e émission de Fenêtre sur cour. Émission réalisée en partenariat avec la Cité de la CAF et avec le soutien de la Fondation de France. L'émission est animée par
Guylaine, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver.
Bernadette, bonjour à tous.
Et moi-même, Christine. Aujourd'hui, dans le cadre des Journées Portes Ouvertes des entreprises du Nord-Isère, nous avons le plaisir de recevoir Carole Cellier, costumière.
Bonjour.
Carole Cellier, bonjour. Costumière, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un peu mystérieux ? Je pense que pour beaucoup d'auditeurs, une costumière fait des costumes de théâtre. Mais je sais que votre domaine est bien plus vaste. Alors, qui êtes-vous ? Comment est née votre passion ?
Alors, pour commencer, en fait, j'étais passionnée par la haute couture. Depuis longtemps, j'étais à peu près en quatrième quand j'ai découvert le monde de la mode, donc au collège. J'ai eu envie de faire ça, mais d'abord, j'ai passé mon bac. Ensuite, j'ai fait une formation BTS en couture industrielle, parce que c'était la formation qui existait après le bac. Et j'ai enchaîné sur un diplôme des métiers d'art de costume de spectacle, parce que je voulais quelque chose de plus artisanal dans la couture. Et là, j'ai découvert le monde du costume, et ça m'a plu. Donc, j'ai commencé par travailler pour des petites compagnies, pour l'Opéra de Lyon, sur des petits contrats comme ça. C'est comme ça que je suis venue au costume.
Ça fait combien de temps que vous exercez ?
Cette année, ça fait la 10e année que j'ai créé mon entreprise. L'activité a bien évolué, du coup, en 10 ans, parce que sur la région, y a du travail dans le costume, mais je ne peux pas vivre que de ça. Donc, du coup, j'ai bien diversifié mes activités. Notamment, j'ai fait des ateliers, des animations autour du textile, dans le but de transmettre aussi mon savoir-faire, parce que j'aime beaucoup partager ce que je sais faire. Et beaucoup avec le musée de Bourgoin-Jallieu. Depuis 10 ans, je travaille avec eux, avec les écoles, avec l'hôpital de jour de Bourgoin aussi, avec la prison de Saint-Quentin, enfin voilà, dans tous les lieux où on peut faire des animations autour du textile.
Alors parlez-nous un petit peu de ça. Qu'est-ce que vous proposez comme animation, par exemple, dans une prison ?
Alors c'était une découverte générale autour du textile, parce que vous imaginez bien que dans la prison il y a plein de contraintes techniques.
Bien sûr.
On peut pas apporter de choses pointues, enfin voilà, au niveau matériel c'est très limité, mais on a quand même fait du feutrage de la laine par exemple, on a fait de l'impression, on a réussi à faire plein de choses différentes. Ça permet de découvrir plein de techniques textiles diverses. Aussi bien, on n'a pas fait de couture, si je me rappelle bien, mais voilà, de la fabrication de matière, de la mise en couleur, voilà, plein de choses.
Ça a été exposé, ça ?
Ça a été exposé à la prison, mais c'est pas sorti.
C'est dommage.
Et oui, du coup, personne, à part les prisonniers, personne n'a vu.
Et vous aviez c'était un public de femmes, enfin un public.
Non, c'était des hommes.
Ah, c'était des hommes, oui, qui se sont passionnés, qui se sont intéressés avec vous sur le textile.
Oui, oui, et il y avait entre 10 et 15 participants à chaque fois, donc il y avait quand même des volontaires qui étaient intéressés par ça. Alors souvent, du coup, c'était des choses assez ludiques que je proposais, qui pouvaient servir de cadeaux. Du coup, ils faisaient ça pour leurs enfants, pour leur famille. C'est ils fabriquaient des petits cadeaux pour leur famille, du coup.
Et vous n'avez pas réitéré ? C'est-à-dire que ça s'est présenté
Non,
c'est
des,
c'est
des actions spécifiques et en principe, ils changent d'intervenant chaque année. Voilà. Donc, je ne l'ai fait qu'une fois, mais c'était très, très intéressant, point de vue humain, point de vue savoir-faire, point de vue partage, c'était vraiment très intéressant.
Une belle expérience.
Au niveau de l'hôpital de jour, qu'est-ce que vous pouvez nous retranscrire par rapport à cette expérience qui devait être très riche ?
Oui, c'était aussi très riche. Donc c'était avec des enfants. Je les voyais une fois par semaine sur une année entière. Donc pareil, pendant 2 heures. Donc ça permet de créer une vraie relation avec eux. Là, c'était en beaucoup plus petit comité. On avait 5 enfants. Alors quand je dis « on », en fait, c'est parce que cet atelier-là, je l'ai animé en partenariat avec une amie qui est aussi costumière, qui a fait ses études en même temps que moi, qui s'appelle Julie Barral. Du coup, là, on a fait cette activité 3 années de suite, avec des enfants différents à chaque fois. On a eu une fois où on a travaillé, par exemple, sur le textile, à travers la découverte du textile à travers les 5 sens. Donc, comment on découvre à travers le toucher, ça semble assez évident. Mais par exemple, découvrir le tissu à travers le goût. Voilà, il fallait, on a essayé de trouver des manières ludiques d'aborder le tissu à travers les cinq sens, par exemple.
Et à travers le goût, alors dites-nous, vous leur avez fait goûter des petits bouts de tissu.
Alors, c'est un peu délicat, on ne peut pas... Mais après, du coup, en regardant un tissu, en le touchant, on essayait d'imaginer quel goût il aurait pu avoir. On faisait plus travailler l'imaginaire que le vrai goût, du coup. Et on essayait de se dire, ce tissu, il nous fait penser, par exemple, visuellement ou au toucher à une fraise. Enfin, voilà, on essayait de trouver quel goût il aurait pu avoir. C'était plus de l'imagination, du coup.
Quelle tranche d'âge, les enfants ?
C'était 8-12 ans, à peu près.
Est-ce que vous avez pu apercevoir des changements dans le comportement ou des progrès par rapport au parcours des enfants ?
Oui, ne serait-ce que par rapport à nous, on a appris à se connaître, c'était sur un an de septembre à juin, donc on a appris à se connaître, ils étaient plus détendus. Oui, c'est difficile à dire parce que du coup il y avait plein d'enfants différents, mais après on était aussi, il y avait des soignants qui nous accompagnaient, parce que c'était obligatoire pour les encadrer. Et eux ont vu plus d'évolution entre les moments où ils étaient à l'hôpital et les moments où ils étaient en atelier avec nous. Par exemple, on avait un enfant qui avait eu une grosse opération au niveau du crâne. Et quand on a travaillé sur les masques, donc ça c'était une autre année, on a travaillé sur les masques, qu'on a fait un moulage en plâtre sur le visage pour pouvoir faire prendre son empreinte. Les soignants pensaient qu'il n'allait pas du tout accepter cette partie-là parce que ça lui rappelait de mauvais souvenirs. Et en fait, ça s'est très très bien passé parce qu'on a fait ça de manière ludique, parce qu'on lui a expliqué, qu'on lui a montré sur les autres avant comment ça allait se passer et que du coup, il a parfaitement accepté. Et ça, les soignants voyaient mieux que nous les évolutions parce que nous, on les voyait toujours dans un cadre sympathique, pas dans le cadre des soins. Donc, on voyait pas vraiment de différence du coup. Mais les soignants ont bien remarqué les évolutions.
Est-ce que ça vous a donné envie d'aller vers d'autres types de publics ? Est-ce que vous auriez envie de travailler avec des gens complètement différents ? Il y a quelque chose qui vous fait envie, rêver ?
Moi, j'aime tous les publics. À chaque fois, c'est des rencontres humaines et juste pour ça, c'est intéressant. Et ça apporte toujours quelque chose, je trouve, de partager avec les gens, quel que soit le public. Après, je n'ai pas de préférence.
Ça, c'était tout votre parcours. Ça fait 10 ans déjà que vous exercez. Il me semble que maintenant, vous êtes peut-être un petit peu plus spécialisée dans le vêtement, moins dans le costume, moins dans la...
Alors oui, ouais. Maintenant, je fais beaucoup moins de costumes parce qu'il n'y a pas tant de compagnies de spectacle sur la région et que moi, je tiens à rester sur la région. Si je voulais vraiment vivre que du costume, il faudrait plus que je monte sur la région parisienne. Du coup, moi, j'ai plus orienté mon activité sur la robe de mariée. La robe de mariée, pour moi, c'est un costume d'un jour. Un mariage, c'est quand même un spectacle, c'est un événement dans une vie et où on est un peu en représentation quand même. Et voilà, donc je me suis orientée sur la robe de mariée, les tenues de cocktail pour les invités, les mamans, les belles mamans, les témoins.
Je me suis laissée dire que vous travailliez aussi sur la customisation des chaussures.
Oui, alors du coup, de par mon métier de costumière, en fait, j'ai appris à faire pas que le vêtement, mais aussi tous les accessoires qui vont avec. Donc du coup, pour la robe de mariée, je propose effectivement la customisation des chaussures, les petits accessoires pour cheveux, ça va être les petites mitaines, les petits gants en dentelle, la jarretière, le voile, la petite pochette, enfin tous les accessoires qu'on peut imaginer pour agrémenter la robe.
Vous travaillez sur le chapeau aussi ?
Alors les chapeaux un petit peu, j'ai fait des stages chez une modiste sur Lyon, donc je connais la base pour fabriquer les chapeaux. Après j'ai pas le matériel nécessaire, donc je fais du chapeau qu'on appelle en coupé cousu, mais pas du chapeau avec mise en forme.
D'accord.
Voilà.
Mise en forme, donc c'est sur une forme en bois.
C'est sur une forme en bois, et voilà. Là les formes en bois, pour chaque chapeau il faut une forme différente, donc ça demande beaucoup de matériel et c'est pas mon métier, donc j'ai pas investi dans ce matériel-là.
pour en revenir aux robes de mariée, expliquez-nous comment ça fonctionne. Vous puisez vos inspirations, vous proposez des modèles où les dames arrivent, je veux ci, je veux ça, elles arrivent déjà avec une idée bien précise de la robe qu'elles veulent porter pour ce jour.
Alors moi, je fais que du sur-mesure, j'ai pas de collection. Alors bien sûr, j'ai les photos des robes que j'ai faites depuis 10 ans, donc il y a forcément des modèles à montrer. Mais le principe, c'est vraiment que la mariée arrive avec ses idées. Si elle en a pas, j'ai des catalogues, on feuillette, et elle me dit ce qu'elle aime pas, ce dont elle a envie. Et après, en fonction de son budget aussi, parce que c'est important aussi de respecter le budget de la mariée, je fais un croquis. Je lui fais une proposition pour qu'il essaye de rassembler toutes ses idées et toutes ses envies.
Ça doit être long entre le moment où la première visite avec vous et où le moment où la robe est terminée.
Ça dépend des mariés. Il y a des mariés qui s'y prennent très longtemps à l'avance, un an et demi, deux ans avant. Donc dans ce cas-là, on fait le croquis, le devis, la validation du devis et on commence les essayages à peu près 6-8 mois avant le mariage. L'idéal, c'est ça, c'est 6 mois avant le mariage pour commencer la robe. Après, par exemple, cet après-midi, je rencontre une cliente. Le mariage est mi-novembre, donc c'est bientôt.
Oui.
Ça va être très court, mais je peux me le permettre parce que là, ma saison est finie. J'ai livré toutes mes robes, donc j'aurai qu'elles à me consacrer. Donc, je peux me permettre ce genre de choses sur les robes hors saison. Voilà.
Et très prosaïquement, combien ça coûte de se payer, entre guillemets, une robe extraordinaire pour le jour de son mariage ou un jour de particulier?
Alors, pour une robe de mariée, bien sûr, ça va dépendre de la complexité de la robe.
Bien sûr.
Les étapes de travail, en fait, pour une robe de mariée, on va avoir donc tout cet échange pour concrétiser le croquis, pour définir le modèle. Ensuite, il va y avoir les choix des tissus, le choix des décorations. On va passer par un premier essayage en toile de coton pour bien adapter le modèle à la silhouette de la mariée. Un deuxième essayage en tissu. Si la robe ne nécessite pas plus d'essayage, après on passe à la livraison. Mais après, il y a des robes qui nécessitent plus d'essayage, plus de temps. Donc si on reste sur le premier avec seulement 2 essayages, on va être à partir de 900 et 1100 euros.
D'accord.
Après, ben, il n'y a pas de limite. Hein.
Ça dépend de la qualité des matériaux.
Ça dépend surtout du travail.
Du travail.
Moi, ce que je propose, j'ai eu une formation en broderie haute couture aussi pendant 5 mois. Si on ajoute de la broderie, si la robe est entièrement brodée, forcément le prix va monter parce que la broderie, c'est beaucoup de temps de travail. Je propose aussi l'impression. Je peux imprimer des motifs en sérigraphie sur les robes. Forcément, voilà, ça implique aussi un autre coût. C'est moins cher que la broderie, hein, ça va plus vite. Mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de limite, en fait, maximum.
Vous faites appel à qui, alors, pour faire imprimer des motifs?
Alors, soit c'est des motifs qui ne sont pas très grands, et dans ce cas-là, moi, j'ai des cadres à imprimer chez moi. J'ai
D'accord.
des cadres sérigraphiques que je fais préparer sur Lyon. Quand le motif est plus grand, je vais dans l'atelier sur Lyon. Donc, c'est un atelier qui s'appelle Unique en série, qui est sur les pentes de la Croix-Rousse. Et là, je vais dans leur atelier pour emprunter leur grand cadre, les faire préparer. Mais c'est tout le temps moi qui imprime. Dans tous les cas, c'est moi qui m'occupe de l'impression et la création du motif.
Pourquoi participez-vous aux journées portes ouvertes des entreprises Norisère?
Alors, j'y participe déjà depuis 9 ans, je crois. Oui, je crois que j'ai commencé là en 2005. C'est une autre façon de se faire connaître. C'est une façon qui est enrichissante aussi, pendant lesquelles on peut vraiment expliquer son activité, parce que pendant 1 heure, j'explique mon travail, je présente ce qu'on a fait aujourd'hui, comment je suis devenue costumière, créatrice de robes de mariée, comment je travaille, ça permet de vraiment bien expliquer son activité, ce que j'ai pas le temps de faire sur des salons, ce que j'ai pas forcément le temps de faire dans un communiqué de presse, là je peux vraiment en parler pendant 1 heure, je peux prendre le temps de répondre aux gens, et voilà.
Alors, pour rebondir sur votre petite entreprise, on va faire une petite pause musicale avec Bachung et ma petite entreprise.
n'est pas la crise. Épanoui et l'exil, des trésors satinés, doré à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse. De lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe, qu'importe l'amour. Les lobbies en Libye, au Laos, là j'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche. Inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je sucre, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, ces bâtiments B. À l'oreille de ce lèvre, qu'importe l'amour importe, qu'importe l'amour s'exporte. Je perds le nord à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. Lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube.
Oui, nous sommes toujours sur Couleur FM, l'émission Fenêtre sur cour, et nous allons recevoir Madame Hugues, qui est membre élue de la CCI. Bonjour d'abord. Alors, parlez-nous un petit peu de la CCI. Qu'est-ce que ça veut dire ce sigle déjà ?
La CCI, c'est la Chambre de commerce et d'industrie, donc qui est un service public au service des entreprises.
Et qu'est-ce que vous entendez par service public alors ? Donc, comment ça se finance déjà ça, par exemple ?
Alors ça se finance, donc c'est un service public qui est financé par une taxe ou une redevance qui est prélevée dans les entreprises. Donc c'est un service public pour les entreprises.
Et c'est
la richesse vient des entreprises et reversée aux entreprises.
C'est en fonction du chiffre d'affaires ? C'est en fonction de quoi ?
Tout à fait. Il y a plusieurs paramètres, comme toutes les taxes, vous savez. Donc, il y a plusieurs paramètres qui viennent en compte pour ce calcul et cette levée de taxes. Hein. C'est assez complexe. Donc, voilà, j'ai pas tous les détails non plus de cette taxe, quoi, sur quoi elle est calculée, mais effectivement, elle est calculée sur le nombre de salariés, sur le chiffre d'affaires et d'autres facteurs encore, d'autres critères.
Expliquez-nous pourquoi la CCI représente une aide pour les entreprises. Est-ce que toutes les entreprises fonctionnent avec la CCI ?
Alors, c'est le choix de chaque entreprise, c'est pas une obligation. La seule, on va dire, obligation, c'est en fait pour créer son entreprise quand on fait partie de la Chambre de commerce et d'industrie, du secteur, hein, parce qu'il y a aussi la Chambre des métiers pour tout ce qui est plutôt côté artisanal. Mais sinon, pour tout ce qui est commerce, industrie et services, effectivement, le premier pas pour créer son entreprise passe par la CCI. Hein. Donc, pour être enregistré, pour avoir un registre de commerce. Voilà. Ensuite, effectivement, chaque entreprise est libre d'adhérer ou de pas adhérer, de fonctionner en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Et ça, effectivement, par les services que peut proposer la CCI.
Moi, je peux compléter un petit peu, puisque je suis adhérente à la CCI. Du coup, de par mon activité, la CCI aussi propose énormément de formations pour aider à gérer son entreprise, pour plein de choses diverses et variées. Et pour ça, c'est intéressant pour les entreprises. Ça apporte une vraie aide.
On vous aide à quoi? Je veux dire, par exemple, monter un budget, à évaluer votre activité, à faire un plan une étude de marché. C'est quoi,
alors, concrètement? Alors, quand on est à la création d'entreprise, effectivement, ça sera les études de marché, les budgets prévisionnels, les choses comme ça. Après, ça va être des aides pour... apprendre à gérer sa comptabilité, se servir d'un logiciel de comptabilité, par exemple, parce que ça, on l'apprend pas à l'école. Enfin, suivant les cursus de formation qu'on a, on l'a pas forcément appris. Et voilà, après, il y a plein d'autres formations.
Donc, vous êtes suivi au fur et à mesure de votre activité par la CCI, ou c'est juste au démarrage, et comment ça se passe?
Ça, c'est chaque entreprise qui décide du suivi qu'elle veut.
Et vous, par exemple, vous avez fait quoi? Alors, vous avez fait appel à quoi par rapport à la CCI?
Alors, moi, c'est un peu particulier. J'ai la double inscription Chambre des métiers et Chambre de commerce. Donc, pour la Chambre de commerce, en fait, c'est surtout par rapport aux journées portes ouvertes des entreprises que par ce biais-là que je suis en relation avec la Chambre de commerce. Et après, plus dans la formation, du coup, plus comme moi, je suis métier d'art et métier artisanal, c'est plus la Chambre de métiers qui m'aide dans ma formation. Mais voilà, la Chambre de commerce est complète par les journées portes ouvertes pour moi.
Quels sont les secteurs d'activité de la CCI et quelle est son ouverture à l'international?
Je suis un petit peu pour répondre à cette question parce que au niveau international, je ne pratique ni dans mon entreprise, ni au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc pour ça, il y a un service, effectivement, par contre, qui est dédié à tout ce qui est à toutes les problématiques de l'international. La CCI répond à toutes les problématiques que le chef d'entreprise peut trouver dans son entreprise. Donc il y a des services spécifiques et des élus aussi, puisqu'en fait les élus sont des chefs d'entreprise qui sont élus donc pour participer à ces activités. Mais au niveau de l'international, effectivement, là, je ne suis pas la bonne personne pour répondre.
Alors, au niveau national, peut-être, vous pouvez nous répondre en disant essayez de concrétiser peut-être pour les auditeurs le genre de service que peut proposer la CCI, à part ce que nous a évoqué Carole Cellier.
C'est dans tous les domaines. Alors moi, je vais plus parler peut-être de celui de la formation que je connais bien. Donc, la CCI apporte les salariés formés de demain et d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la CCI, toutes les CCI de France, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le deuxième organisme de formation après l'éducation nationale. Et au niveau de la CCI, on a des bâtiments où sont formés aussi bien des jeunes, donc après le bac en études supérieures, donc ça peut être soit l'alternance, soit une école de commerce également. Voilà, et on peut aussi former les salariés qui sont en entreprise et qui souhaitent évoluer professionnellement. Donc c'est toujours au service de l'entreprise pour tout dans tous les domaines.
Et donc vous avez des salariés qui sont chargés de formation et qui sont permanents.
Tout à fait, tout à fait. Après, c'est pour ça que c'est aussi spécifique la Chambre de commerce et d'industrie, parce qu'en fait, il y a des salariés, donc il faut savoir que sur le Nord, entre les différentes antennes qui sont donc le siège est à Vienne, ensuite on a Villefontaine où là on a plus la formation qui est là, donc ça représente 100 salariés.
Et quand une entreprise a un problème, elle se tourne vers la CCI pour obtenir une aide, donc?
Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, les différents services, on a parlé de la formation, on a parlé de l'international, ça peut être aussi dans le commerce, pour des études, voilà. Et donc là, on se tourne vers la CCI, qui peut répondre aux interrogations des chefs d'entreprise.
Alors si vous aviez à donner une définition, la grande force de la CCI, c'est quoi pour vous?
C'est des chefs d'entreprise au service des entreprises.
Et vous, votre secteur d'activité, c'est quoi alors, Madame Hugues?
Alors moi, je suis à titre professionnel dans la grande distribution alimentaire sous l'enseigne Intermarché.
D'accord. Madame Hugues, donc maintenant, parlez-nous de cette semaine portes ouvertes justement pour toutes les entreprises. Quand est-ce qu'elle a été créée? Je sais que ça attire beaucoup de monde. Les gens sont très très curieux de ce tourisme entre guillemets industriel, comme on l'appelle. Parlez-nous-en un petit peu plus précisément.
Donc effectivement, les JPO, donc les journées portes ouvertes, donc ont été lancées en 2004. Et depuis donc 2004, donc on est dans la 11e édition cette année, donc cette opération a rassemblé plus de 32 000 visiteurs et plus de 400 entreprises. Cette année, elle a lieu du 13 au 19 octobre. Il y aura 74 entreprises qui participent et qui vont donc ouvrir leurs portes dans des secteurs divers. Donc on a des entreprises en agroalimentaire, en tourisme, en environnement, en commerce, également en industrie. On a aussi des sociétés qui travaillent des matières premières et donc tous les secteurs d'activité sont représentés.
Il y a un profil un peu du public qui vient vous voir, si c'est familial, si c'est plutôt des personnes d'un certain âge, parce que déjà c'est dans la semaine, je crois il y en a la semaine, il y en a le week-end aussi.
C'est ça, c'est dans la semaine et le week-end. Et effectivement, on a pu voir que les personnes seniors sont les plus importantes. Il y a environ 55% des visiteurs qui sont des seniors, mais les actifs sont quand même juste derrière aussi avec 36% d'actifs. Voilà. Et on a aussi un public de demandeurs d'emploi qui profitent de ces journées portes ouvertes pour découvrir les entreprises et des fois postuler dans les entreprises. Et on a également comme typologie de visiteurs des scolaires et des étudiants. Donc ça c'est ancré dans les programmes et effectivement ils viennent en bus visiter les entreprises.
Alors comment vous choisissez les entreprises qui font partie de la semaine porte ouverte? C'est spontané? Comment ça marche?
Voilà, c'est pas nous qui les choisissons, c'est les entreprises qui sont au courant de cette manifestation et qui viennent s'inscrire justement pour participer à cette manifestation.
Et au départ, je veux dire, quel est le fait générateur de cette semaine porte ouverte? Ça vient d'où? Il y a une première région qui a mis ça en place et ça s'est diffusé?
Tout à fait. Ça, au départ, ça a été mis en place au niveau national, avec cette volonté en fait de valoriser le savoir-faire et le travail des salariés, de faire découvrir des métiers, voilà, de pouvoir promouvoir aussi les produits produits par les entreprises, de s'impliquer dans la vie locale aussi, parce qu'effectivement, des fois, on passe devant une entreprise et voilà, on se dit mais qu'est-ce qui se passe derrière ces murs? Et là, c'est l'envie de découvrir cette activité, de développer aussi la notoriété pour justement les entreprises sur la vie locale, d'avoir aussi une relation directe avec les clients. Ça, c'est aussi intéressant. Et puis de dynamiser aussi un territoire.
Alors, comment on fait pour avoir le programme? C'est au niveau de l'Office du tourisme? C'est disponible où? Il faut s'inscrire?
Alors, non, le programme, effectivement, on peut l'avoir par l'Office du tourisme, qui est partenaire. Sinon, il y a des catalogues qui sont distribués. Il y a des affiches qui sont mises aussi dans certains commerces.
Et donc, en général, il faut s'inscrire pour ces visites ou est-ce que c'est
accessible? Voilà, il faut absolument, tout à fait. Il faut s'inscrire, on ne peut pas aller directement si on sait que l'entreprise va ouvrir ses portes. On ne peut pas aller directement s'inscrire dans les entreprises, mais il faut s'inscrire soit par téléphone directement à la CPI au 04 74 31 88 50 ou alors directement en ligne sur jpo.nord-isère.cci.fr.
Et alors moi je rebondis sur l'inscription obligatoire. Par exemple, pour moi, j'ai que 8 places dans mon atelier. S'il y a 15 personnes qui se présentent, je vais être obligée d'en refuser. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous vous inscriviez avant de venir.
Ce que je voudrais rajouter sur les journées portes ouvertes, c'est que aller visiter une entreprise, c'est toujours une grande richesse. Et c'est partir à la découverte d'une entreprise et des savoir-faire des entreprises des territoires. C'est découvrir aussi son territoire sous cet aspect économique. Et puis c'est aussi donc ces entreprises qui ouvrent leurs portes, donc je répète, 74 cette année, qui prennent le temps donc d'accueillir des visiteurs et qui, pour leurs collaborateurs, ça permet aussi d'être mis en valeur et de mettre en valeur leur savoir-faire.
Eh bien écoutez, il nous reste à vous remercier du temps que vous nous avez consacré et puis à espérer que la semaine porte ouverte aura beaucoup de succès.
On vous y attend tous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je suis né dans un village près du ciel plein d'oiseaux. Je suis l'enfant le plus sage de Padilhézot. Mes parents sont culottiers, et la nuit et le jour, ils font leur triste métier, le cœur plein d'amour. Papa pique et maman cou, papa pique et maman cou, maman cou, maman cou, papa pique et maman cou. La nuit j'entends leur machine qui gémit au grenier, comme le vent chez la voisine pleure dans l'escalier. Parfois, au milieu d'un rêve, je m'éveille en sursaut. Je vois le jour qui se lève, tandis que là-haut, papa pique et maman cou, papa pique et maman cou, maman cou, maman cou, papa pique et maman cou. C'est le printemps et c'est ma fête, j'ai 15 ans, quel bonheur. Et les filles à bicyclette emportent mon cœur. J'en connais une très jolie qui s'appelle Louison. Je la vois sur la prairie, car à la maison. Il y a papa qui pique, il y a maman qui coue. Il y a papa qui pique, il y a maman qui coue. Il y a papa qui pique, il y a maman qui coue. Il y a papa qui pique, il y a maman qui coue. Par un clair matin de décembre, tous les deux on se mariait. Et le soir dans notre chambre, ma femme riait. Nous allions bientôt connaître le bonheur cette nuit, quand soudain, à la fenêtre, on entend un bruit. Oh, papa pique et maman cou, papa pique et maman cou. Maman! Non! Papa pique et maman cou. Depuis, j'ai perdu ma mère. Elle est morte. Doucement, peu de temps après, mon père a suivi maman. Et Louison s'en est allé avec un vagabond. Et dans la maison hantée, chaque nuit, dit-on.
Vous êtes toujours sur Couleur FM, l'émission Fenêtre sur cour, et avec Carole Cellier, costumière. Alors Carole, parlez-nous encore de votre passion, de votre métier. Racontez-nous peut-être des petites anecdotes positives ou négatives, les soucis que vous avez pu avoir, et puis surtout les grands bonheurs que vous apporte ce métier.
Alors, les grands bonheurs, c'est que du coup, je rencontre que des personnes heureuses, hein, vu que c'est des personnes qui vont se marier. Donc ça c'est un vrai plaisir du coup de partager ce grand moment de la vie quand même avec toutes ces futures mariées. La robe c'est en plus le rêve de toutes les petites filles, donc c'est la concrétisation d'un rêve de petite fille pour toutes les mariées, donc c'est un grand moment. Après par exemple des demandes un peu extraordinaires, j'ai une année, une mariée qui m'a demandé une robe avec des fibres optiques, une robe lumineuse. Ça, par exemple, c'est des moments qui sont vraiment sympas parce que moi, ça me rapproche de ma formation de costumière et ça me permet vraiment d'explorer toutes les possibilités techniques que j'ai apprises. Voilà.
En parlant justement de choses un peu extraordinaires, par exemple, est-ce que vous avez travaillé pour des compagnies de danse? Parce que c'est une demande un peu particulière, là, je veux dire. Il y a besoin de mobilité, de facilité, de confort.
Alors, je n'ai pas encore fait, mais effectivement, ça demande des contraintes bien, bien particulières. Il faut que les danseurs puissent bouger facilement. Du coup, on n'utilise pas les mêmes matières que pour les costumes, par exemple, de théâtre. Pour un costume de théâtre, on va rester dans des choses très classiques dans les matières. Enfin, très classiques, non, on peut utiliser des choses complètement extraordinaires aussi. Par exemple, pour une compagnie de théâtre clownesque, on avait travaillé avec de la thibaude. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que de la thibaude.
Ah non, dites-nous.
Alors, la thibaude, c'est un isolant. C'est un aggloméré de fibres, en fait, un isolant qu'on utilise, par exemple, sous les moquettes ou qu'on utilise dans l'industrie automobile. Voilà. Donc, voilà, on utilise des fois des matières un peu bizarres dans le costume. Alors, pas dans la robe de mariée, hein, du coup, moi, ça marche pas.
Quelles sont les qualités requises pour exercer votre métier ?
La passion. Tous les gens me disent souvent dans les journées portes ouvertes, ou même ailleurs, hein, quand ils voient le travail que je fais, ils disent « Oh là là, mais il faut beaucoup de patience pour faire tout ça. » Je dis « Non, il faut de la passion. Quand on est passionné, on compte pas le temps, on compte pas... Enfin, quand on aime, on fait, quoi. On n'a pas besoin d'être patient. »
Il faut quand même un petit peu d'adresse.
Après, il faut un petit peu d'adresse avec ses mains, c'est sûr. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. On s'entraîne, on... Voilà.
Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour ça.
Il y en a qui ont des meilleures bases à la base. Voilà, mais après, avec beaucoup d'apprentissage, on peut arriver à faire plein de choses.
Qu'est-ce qui est difficile dans votre métier ? Parce qu'on vous posait la question de ce qui était agréable, passionnant, etc. Mais qu'est-ce qui est difficile ?
Alors, je dirais ce qui est, alors, ce qui n'est pas propre à moi, mais propre à toutes les petites entreprises, c'est que... Bah, quand on est salarié, en fait, on n'a pas de questions à se poser. On va travailler, on sait qu'il y a le travail et on avance. Quand on est comme moi, quand on a une entreprise comme moi, il faut que j'aille chercher le travail. C'est-à-dire, il faut toujours que je communique, que j'aille faire des salons, que j'aille chercher les mariées là où elles sont, que je rentre en contact avec le musée, avec les écoles pour pouvoir faire des ateliers. C'est à moi d'aller chercher mon travail. Et ça, c'est difficile parce que, bah, par exemple, dans 6 mois, je ne sais pas ce que je fais pour l'instant. Là, j'ai fini ma saison 2014. Ce week-end, j'étais en salon du mariage. Donc là, je commence à reprendre contact avec les mariés de l'année prochaine. Mais pour l'instant, je ne sais pas en fait où je vais. Ça, c'est la partie qui est un peu compliquée. Après, je ne me fais pas de soucis parce que c'est toutes les années comme ça et c'est une façon de vivre aussi. Et on sait que ça va bien se passer et que ça se passe bien toutes les années. Il n'y a pas de raison. Mais c'est la partie qui peut être angoissante pour certaines personnes.
Vous n'avez pas de sas de sécurité ? Parce que moi, je pense à certains comédiens qui, par exemple, je veux dire, en ayant des contrats de formation ou d'intervention avec des écoles, ont quand même un minimum qui leur simplifie un peu la vie. Vous, non ?
Non.
Vous êtes sans filet.
Sans filet.
Ouais. Bravo.
Bravo. Oui, donc je pense qu'au niveau communication, c'est quand même le bouche à oreille qui doit fonctionner le mieux. Je ne sais pas comment vous faites votre publicité. Vous n'avez pas. Il y a peut-être des revues spécialisées dans votre métier ou. Quand vous avez démarré déjà votre première robe de mariée, comment.
Alors, la première. J'avoue, je ne me souviens pas. Ah. Mais après c'est de la communication, donc ça va être des salons. Alors au début je faisais les salons métiers d'art, maintenant je fais les salons spécialisés mariage. Ça va être avoir un site internet, un blog, la page Facebook, enfin voilà, tous les moyens de communication internet. La publicité dans les magazines, je pense, enfin, j'y crois un petit peu moins, mais on peut le faire aussi. Il y a tous les magazines spécialisés dans le mariage, hein, il y en existe plusieurs. Après, il y a plein de possibilités en fait dans la communication.
À quel salon dans le coin on peut vous trouver justement pour les gens qui seraient intéressés pour voir ce que vous faites ?
Alors c'était ce week-end.
Ah, zut. Bon,
j'en ai un autre au mois de novembre. Je serai au salon du mariage de Cessieux. Je ne sais plus exactement la date, c'est autour du 15 novembre, c'est le dimanche, sur une journée, donc à Cessieux, à la salle des fêtes de Cessieux. Ce week-end, c'était aux Avenières, dans une annexe du parc Walibi. Je vais en parler quand même parce que ce week-end, j'ai eu la chance pour ce salon de faire une robe en chocolat, avoir mon partenariat avec un chocolatier, et elle a été portée par Miss France 2012, Delphine Vespizer, pour le défilé. Donc voilà, c'était le petit bonus du week-end.
Une robe en chocolat.
Plus
précisément, s'il vous plaît.
Extraordinaire.
Oui. Alors, techniquement, en fait, moi, je fais la base textile, parce qu'on fait... Une robe en chocolat, bien sûr, n'est pas qu'en chocolat. C'est techniquement, enfin, c'est possible, hein, mais c'est très compliqué de la faire que en chocolat. Donc, il y a une base en textile sur laquelle va être fixé le chocolat. Donc, moi, j'ai préparé la base textile, je l'ai emmenée chez le chocolatier. Lui, il a fait toutes les décos en chocolat, les ornements aussi en chocolat dessus. Donc, moi, je l'ai découverte vendredi soir, comme les autres exposants, en fait, parce que je ne l'ai pas vu avant. Et... après, bah, y a des contraintes techniques au niveau de l'habillage. Ça me rapproche, pareil, plus du costume et des contraintes, parce qu'un défilé, c'est particulier. Au niveau de l'habillage, on a très peu de temps. Il y a vraiment beaucoup de contraintes. Voilà, moi c'était très intéressant comme partenariat.
Il va y avoir la semaine du goût dans quelques temps. Est-ce que la robe en chocolat va être mangée?
Alors, on ne peut pas manger une robe en chocolat.
Quel dommage.
Parce que il n'y a pas que du chocolat. En fait, le chocolat, il est à chaque fois sur des structures, sur des, il est collé sur la robe. Il est donc, si on mange du chocolat, on mange un peu de colle avec. C'est pas terrible.
Plus généralement, on peut peut-être se poser la question de qu'est-ce qui vous inspire.
Alors, qu'est-ce qui m'inspire? Chaque nouvelle mariée est une nouvelle source d'inspiration parce qu'elle arrive avec des nouvelles idées, elle arrive avec des contraintes. Par exemple, si une mariée, elle me dit qu'elle part à moto après la cérémonie, ça implique des contraintes techniques par rapport à la robe. On ne peut pas se permettre de faire une grosse robe pleine de froufrou sur une moto. C'est compliqué après pour monter sur la moto. Donc après, voilà, il y a plein de... Chaque mariée est une nouvelle source d'inspiration. Et après, moi, je vous ai dit au début, j'aimais beaucoup la haute couture. Dans la haute couture, mes favoris, c'est Jean-Paul Gaultier, c'est Franck Sorbier, Elissa Abbe. Voilà, c'est mes trois chouchous.
Et est-ce que vous avez des fournisseurs, je veux dire, particuliers? Je veux dire, ce qui est important quand même dans les robes de mariée, dans les costumes, c'est la matière.
Oui.
Ça doit vous inspirer.
Plus on a un joli tissu et plus la robe est belle, forcément. Mmh. Alors, une belle coupe, hein, c'est très bien aussi, mais un beau tissu, ça change beaucoup de choses. Donc, moi, après, on a la chance, en fait, d'avoir un fournisseur professionnel sur Lyon, qui est un fournisseur très bien, puisque moi, quand j'ai fait mon stage pendant mes études à l'Opéra de Berlin, il se fournissait chez lui. Donc, voilà, on a la chance qu'il soit à Lyon. Donc, voilà, je vais sur Lyon pour me fournir en tissu. Là, c'est... pour des tissus de toutes sortes. Après, j'ai eu aussi une demande une fois d'une mariée qui voulait absolument des tissus français. Donc, j'ai aussi des fournisseurs spécifiques tissus français.
Et le particulier ne peut pas y avoir accès à ces...
Et non.
Quel dommage.
C'est réservé aux professionnels.
Quel dommage.
Vous nous avez dit la semaine dernière que vous étiez partie en stage. Vous en faites fréquemment. Vous vous formez régulièrement. Chaque fois que vous avez envie de faire autre chose, vous cherchez une autre formation. Comment ça se passe?
Alors oui, la formation, je trouve que c'est important parce que pour se tenir au courant de l'évolution. Alors là, c'était un stage communication stratégie marketing. Donc là, c'était c'était pointu, spécialisé quand même professionnel du mariage. Mais après, en couture, par exemple, quand j'ai fait ma formation en broderie haute couture, j'avais déjà créé mon entreprise, j'étais déjà installée, mais je trouvais que c'était un plus pour pouvoir proposer des choses différentes à mes mariés.
Vous l'avez fait où ? Excusez-moi, vous l'avez fait où, cette formation, donc ?
Alors, cette formation, elle était en partie sur Lyon et en partie sur Pontcharrat, à côté de Tarare.
C'est une école particulière ? C'est quoi ?
C'était cofinancé par la région et le Pôle emploi et les missions locales. Voilà. C'était pas une école, c'était un centre de formation, mais qui était en rapport avec la région. Voilà.
Eh bien, écoutez, je crois qu'on a déjà bien balayé, je veux dire. Est-ce que vous avez envie de nous faire partager autre chose ? Vous aviez peut-être participé quand même aux expos qui avaient été demandées au moment d'exposition sur la plume du musée de Bourgoin.
Oui, alors en fait avec le musée, donc à chaque fois qu'il y a une exposition, je propose des ateliers, des animations en rapport avec le thème d'exposition. Avec le musée de Bourgoin, si je peux vous parler de mon premier contrat avec le musée, parce que c'était quand même sur l'exposition Madame Gray. Je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de la voir, c'était une très belle exposition où il avait fallu fabriquer, donc il y avait 80 robes de Madame Gray qui étaient exposées. Il avait fallu fabriquer les mannequins pour exposer ces robes, les bustes sur lesquels les robes étaient posées, parce qu'on ne pouvait pas retoucher les robes. Et donc, oui, il fallait faire des bustes adaptés aux robes. J'en ai fabriqué une dizaine sur les 80. Donc, d'accord. Ça, c'était un contrat, c'était le premier, donc forcément, c'est le contrat du cœur, quoi. Il me tient à cœur. Mais c'était aussi un contrat sympa et rigolo, parce que fabriquer des bustes couture, c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on fait du costume ou... Mais c'était très sympa.
Bon, vous êtes tout terrain, donc.
Tout terrain.
Bon, Carole Célie, on va vous remercier de ce grand moment passé avec vous. Et rappelez-nous les heures, les jours où on peut aller visiter votre atelier à Vaumilieu, je crois.
Alors, c'est effectivement à Vaumilieu, en plein centre du village. Donc, ça sera le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors du coup, je ne sais plus exactement les...
Ça va être autour les, du 20, donc.
Oui, voilà, autour du 20 octobre. Les après-midi, il y aura 2 visites par après-midi. Et bah, pour avoir plus de détails, je vous laisse aller sur le site, du coup, des journées portes ouvertes des entreprises. Et puis, réservez vos places, parce que les places sont limitées. Voilà.
8 personnes.
Voilà, 8 personnes, parce que c'est un petit atelier.
All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me?
Merci Billie Holiday. Vous êtes toujours sur Couleur FM 97.1, fenêtre sur cour. Maintenant, nous allons passer à l'agenda.
Et maintenant, place à Madame Gadou, directrice de la RIM, association Rencontre, Information, Médiation Familiale,
qui va nous parler en particulier de la journée du 13. Alors, vous allez déjà nous expliquer ce que c'est la RIM et peut-être nous parler un peu de cette journée, Madame Gadou.
Oui, tout à fait. Voilà, alors la RIM, c'est une association qui existe depuis 20 ans, hein, puisque cette année, en fait, c'est 20 ans, et c'est une association qui s'occupe de droits de visite. Voilà, donc on a un point rencontre, un lieu d'exercice de droits de visite, donc qui est ouvert les mercredis et les week-ends, toute l'année, et on a aussi un service de médiation familiale. Voilà, où là, on reçoit des personnes en conflit et qui, en présence d'un tiers, essayent de trouver des solutions à leur conflit. Voilà, des solutions qui leur appartiennent vraiment.
Ça concerne les familles divorcées, quoi.
Alors, ça concerne à la fois les familles séparées ou divorcées et à la fois, on organise des droits de visite pour des parents dont les enfants ont été placés. Donc, on travaille avec les services de l'aide sociale à l'enfance.
D'accord.
Voilà, et les parents viennent rendre visite à leurs enfants dans le lieu pendant un temps donné qui est déterminé par le juge des enfants dans ce cas-là.
Et donc le lieu est où? C'est sur Bourgoin?
Alors ce lieu est à Bourgoin, voilà, 5 rue des Charmettes, dans une petite maison qui nous est prêtée par la mairie de Bourgoin.
D'accord. Et il est ouvert en permanence ou il fonctionne par intermittence?
Alors il est ouvert aux familles sur les mercredis et les week-ends. Voilà, là en fait ce sont des temps d'accueil et ensuite bien sûr il y a des temps d'entretien qui sont en dehors de ces 3 journées d'accueil.
Alors, ce sont uniquement des bénévoles ou est-ce qu'il y a des salariés ?
Pas du tout. On n'est qu'une équipe de salariés depuis toujours. Donc, on est 10 salariés à travailler à la RIM, à temps partiel, hein, bien sûr. Voilà, donc ce sont des psychologues, des psychothérapeutes, conseillères conjugales, monitrices éducatrices. Voilà un petit peu le personnel donc, que nous avons.
Qui est-ce qui envoie les gens sur la RIM ?
Alors, ce sont à la fois les juges aux affaires familiales, dans le cadre des séparations et des divorces, et à la fois le juge des enfants et l'aide sociale à l'enfance, dans le cas des familles séparées du fait d'un placement des enfants.
D'accord, donc c'est à chaque fois un organisme public qui vous oriente, qui oriente les gens sur vous. Donc,
voilà, il y a aussi possibilité pour des personnes de venir en demande volontaire, mais chez nous, ça représente vraiment qu'une très 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 faible partie de la population qu'on reçoit.
Cette journée du 13, alors.
Oui. Alors, cette journée du 13 octobre, en fait, on l'a décidée à l'occasion des 20 ans de l'association et on s'est dit qu'on allait faire une grande première. Voilà, donc on organise une journée d'études, en fait, sur des thèmes qui nous sont tout à fait chers et des problématiques qu'on rencontre tous les jours, c'est-à-dire la reprise de la confiance dans les situations qu'on reçoit au sein des familles séparées pour faire en sorte de pouvoir soit maintenir le lien, soit rétablir le lien. Donc le thème c'est confiance, méfiance, défiance, donc le travail sur la restauration de la relation au sein des familles séparées pour que le lien demeure, ça c'est le grand sujet de la journée, et à l'occasion de cette journée on a invité, un philosophe, le défenseur des enfants, les juges de Bourgoin, aussi bien les juges d'affaires familiales que les juges des enfants, Pierre Daossi qui est un psychologue de la relation à l'espace. On travaille également sur la psychotraumatologie. Il y aura des intervenants qui vont intervenir sur ce sujet-là. Et puis sur l'éducation au sein des familles séparées.
Et voilà. Cette journée est ouverte aux professionnels ou est ouverte à tous?
Alors elle est ouverte en priorité aux professionnels. Bon voilà, on a énormément de professionnels qui se sont inscrits. On est bientôt à 200 inscriptions là. Et puis, bien sûr, elle est ouverte à tout le monde, mais voilà. Je pense que c'est plus difficile pour des familles de venir assister à une journée comme ça que pour des professionnels.
D'accord. Vous nous disiez que vous exerciez votre activité depuis 20 ans.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a comme perspective actuellement ? Je veux dire, il y a des développements prévus ? Il y a une orientation différente ?
Non, pour l'instant, on est toujours dans les mêmes orientations. Voilà, on a déjà beaucoup à faire avec tout ça, avec la médiation et les droits de visite. Donc non, pour l'instant, on reste tout à fait sur les mêmes orientations.
Et qui est-ce qui finance ce type d'action ?
Alors, ce type d'action est financé par le Conseil Général, la CAF et le ministère de la Justice.
Est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment nombreux pour ce qu'il y a à faire ?
Alors non, évidemment. On n'est pas assez nombreux, les finances sont insuffisantes, donc ma foi, on fait avec ce qu'on a, on essaye de maintenir une activité avec les subventions qu'on obtient. Bon, on sait bien qu'on n'obtiendra jamais beaucoup plus de subventions que ce qu'on a aujourd'hui. Bon, il y a quand même une perspective qui est nouvelle au niveau financement, c'est qu'il y a une prestation de service qui va être mise en place à partir de janvier, après qu'il y ait eu une reconnaissance de ces lieux de visite par un décret. Ça, c'est concernant le point rencontre. Ensuite, concernant la médiation familiale, il y a un certain nombre d'années qu'il y a déjà une prestation de service qui fonctionne, donc avec un comité de financeurs qui régit les financements de ces lieux.
D'accord, mais c'est qui ? Parce que là,
c'est les mêmes.
Ah, c'est
pour
les mêmes.
La médiation familiale, ce sont les mêmes financeurs que pour les espaces rencontres.
D'accord. Et ça vous paraît fondamental que ça perdure et peut-être que ça, ça se développe ?
Oui, ça serait
comment est-ce qu'on peut aider à ça ? Qu'est-ce qui...
Je ne sais pas, en apportant des dons, éventuellement. En même temps, on réalise quand même une mission de service public, donc je pense que ça serait quand même aux institutions à financer un peu plus, surtout au ministère de la Justice, qui est très pauvre.
D'accord, écoutez, il nous reste à vous remercier pour cette information.
C'est moi qui vous remercie, voilà.
Bon, on va passer peut-être maintenant à l'agenda, on a quelques informations à vous donner, en particulier déjà... La semaine du goût, le mois d'octobre est riche.
Très très riche en goût ce mois d'octobre. Donc du 15 au 24 octobre à la Cité de la CAF, il y a une animation. adultes, évidemment, 7 en semaine, les enfants ayant école maintenant le mercredi. Toute la journée, nous allons pouvoir goûter du chocolat, une exposition d'abord avec le chocolat prêté par la médiathèque, une grande animation sur le thème du cacao, une dégustation de chocolat, des fontaines de chocolat prêtées par le comptoir des papilles de la Tour du Pin, des ateliers, et j'en passe. Venez, venez, venez goûter. Ça sera une grande fête du chocolat. Donc, je répète, c'est à la Cité de la CAF du 15 au 24 octobre.
On peut parler peut-être aussi de la semaine de l'allaitement, Bernadette.
Oui, comme tous les ans, du 13 au 17 octobre, la maternité de la clinique Saint-Vincent-de-Paul se prépare pour la semaine mondiale de l'allaitement. Le thème de cette année, un atout pour la vie, avec nos partenaires, la Cité de la CAF Bourgoin-Jallieu et sa ludothèque, Simplement Parents pour le portage, Galactée pour l'allaitement, Contine, CPAM. Ensemble, ils animeront tout au long de cette semaine des ateliers et des stands. Venez nombreux.
Et dans un autre genre, il y a aussi une semaine terrible. Une semaine terrible autour du carton et des papiers. Et Collegram ouvre ses portes comme d'habitude de la semaine du 30 septembre au 4 octobre. Il y a des nouveaux papiers, des nouvelles couleurs, des nouveaux formats, des nouvelles textures. Et en particulier le 4 octobre, il y a plein d'ateliers surprises et gratuits tout l'après-midi pour tous, y compris pour les enfants, les bébés et les adultes. Donc venez faire un tour. Et je vous rappelle les heures d'ouverture pendant la semaine. Le mardi, c'est de 14 à 18 heures. Le mercredi, c'est de 9 à 12 et de 14 à 18 heures. Et le samedi, c'est de 9 à 18 heures. À bientôt.
Et toujours le programme de la semaine du goût, mais cette fois-ci pour nos chères têtes blondes. Vous pourrez les amener à partir du mardi 21 octobre de 9h30 à 11h30 et jusqu'au vendredi 24 octobre de 8h45 à 12h. Là donc, ça sera pendant les vacances scolaires, toujours avec des ateliers parents-enfants autour du chocolat, des expos, des dégustations et des visites de la chocolaterie Marlieu à Chimilin. Si vous voulez prévoir vos cadeaux de Noël, c'est une bonne idée. L'association Palette vous invite du mardi 7 au vendredi 10 octobre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h à l'espace Grenette, rue Piétonne à Bourgoin. Vous aurez une expo-vente d'objets déco, de jeux en bois fabriqués à l'atelier de Palette. Vous pourrez jouer aussi avec vos enfants, c'est très interactif. Venez, venez nombreux, donc à l'espace Grenette du mardi au vendredi 7 octobre.
Eh bien, ça bouge à Bourgoin, donc ouvrez vos yeux, vos oreilles et venez visiter les différentes expos qui sont proposées. Il nous reste à vous dire au revoir, en espérant vous retrouver la prochaine fois.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.